que Dieu est éternel et qu'il est amour. Donc ce qui montre bien que l'amour est au-dessus du temps. Mais comme on est quand même très conditionné par le temps, ça joue quand même, c'est sûr. Et le conditionnement du temps fait que on peut noter des foyers jeunes, des foyers moins jeunes, sans parler des foyers plus âgés. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui demeure au-delà de tout cela, c'est justement de redécouvrir perpétuellement ce que représente ce grand mystère de l'amour. Dieu est amour. C'est le vieux Saint Jean qui dit ça. C'est quand même très impressionnant. Parmi la révélation, il n'y a pas beaucoup de révélations qui disent ça. Et c'est la grande révélation de Saint Jean, tout amour vient de Dieu. Et tout amour remonte vers Dieu. Alors quand on est dans un monde comme le nôtre, n'est-ce pas, où tout est extrêmement pollué, abîmé, pollution des idées, pollution du cœur, pollution de la sensibilité, on sent bien combien c'est difficile d'être source d'amour. Et l'amour demande toujours de jaillir de la source. Il n'y a pas de canalisation de l'amour. C'est ça qu'il faut se rappeler tout le temps. J'aime bien, vous voyez, au point de vue philosophique, de regarder la différence de la source et des canalisations. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand il s'agit de l'amour, on doit revenir à une source. Et le foyer doit être source d'amour. Et doit être perpétuellement source d'amour. Dans un monde comme aujourd'hui, on canalise presque tout. Et on aurait peut-être la tentation même de canaliser l'amour. Et alors ce ne serait plus l'amour. L'amour se tairait et mourrait. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que de l'amour peut arriver à mourir dans le silence. Il peut arriver à mourir sans rien dire. L'intelligence, elle crie. Tandis que l'amour peut se taire et disparaître. Et je crois que quand l'amour est canalisé, il n'est plus ce qu'il doit être. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous servir de méthodes, parce que c'est évident que les méthodes sont un peu des canalisations. Mais une méthode n'a de sens que dans la mesure où elle respecte l'amour. Une méthode qui ne respecterait pas la source de l'amour, eh bien, serait très dangereuse. Alors si vous voulez ensemble, c'est le but de ces jours, de cette journée et la journée de demain, ensemble on essaiera de comprendre dans la vue de Dieu, puisque nous nous plaçons délibérément dans une perspective chrétienne, dans la vue du cœur de Jésus, ce que doit être le foyer. Vous le savez et vous le vivez. Moi je ne le vis pas. Mais je le vis quand même, parce que c'est le propre du mystère de l'amour de comprendre tout ce que représentent les diverses modalités de l'amour. Et je crois que toute communauté religieuse doit être source d'amour. Et c'est peut-être l'heure aujourd'hui, moi je le sens très fort du moins de cette manière-là, c'est peut-être l'heure aujourd'hui que les communautés spirituelles, pour ne pas dire religieuse, les communautés spirituelles, parce que le religieux peut très bien ne plus être spirituel, ça arrive quelquefois. Alors il se canalise, et lui aussi il peut se canaliser. Alors à ce moment-là, il n'est plus spirituel. Disons, les communautés spirituelles, les communautés d'amour, doivent se retrouver, doivent pouvoir coopérer, parce qu'on est dans un combat qui est tellement fort aujourd'hui, qu'on sent très bien qu'il faut que toutes les forces vives, où il y a des sources jaillissantes d'amour, doivent pouvoir se retrouver, doivent pouvoir coopérer, en respectant. Il est bien évident qu'une communauté familiale ne doit pas être une communauté monastique. Et il est bien évident qu'une communauté monastique ne doit pas être une communauté familiale. Quand il y a ces confusions-là, ce n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime de respecter la diversité qui est dans le cœur de l'homme. Et il faut cette complémentarité, on le verra ça, et c'est tellement important. Dans un monde qui uniformise tout, pour ne pas dire autre chose, qui uniformise tout, et qui au fond n'accepte plus la qualité, ça c'est un monde qui se matérialise. Dès qu'on accepte la qualité, on accepte la diversité, et on accepte la complémentarité. Et on accepte que chacun, on a quelque chose à dire qui est unique. Et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à dire qui est unique. C'est bien évident. Vous avez chaque foyer quelque chose d'unique. Et vous n'avez pas à imiter un autre foyer. Vous devez être très proche, le plus proche possible, mais on n'a pas à l'imiter. Parce qu'on a chacun quelque chose d'unique. Ce n'est pas la peine du reste de chercher indéfiniment l'originalité dans laquelle on doit. On le vit. Si on vit dans l'amour, on est original. C'est le propre de l'amour, parce que ça jaillit de source. Si au contraire, il n'y a plus d'amour, on cherche des procédés et on tombe dans l'uniformité à ce moment-là. On tombe dans des procédés qui sont matériels et il n'y a plus ce jaillissement, il n'y a plus cet aspect qualitatif. Je crois que c'est un des aspects sur lequel nous reviendrons, parce que c'est quand même très important de saisir la lutte devant laquelle on se trouve actuellement. Et quand on saisit la lutte dans laquelle on se trouve et qu'on peut dépister les erreurs qui sont constamment là à la porte, ça nous aide beaucoup mieux pour répondre. Saisir le foyer comme vraiment une source jaillissante d'amour, ça doit être cela. Une source d'amour pour le monde, pour l'Église, une source qui éduque à l'amour, parce que si on est une source, on doit éduquer à l'amour, et qui permet, par le fait même, de réveiller les autres. Si on est source, on est là pour réveiller les autres, pour les aider, pour les soutenir. Alors, si vous voulez, nous allons essayer ce matin, il faut commencer par quelque chose qui nous met tout de suite dans le grand axe de cette volonté de Dieu sur nous. Nous allons essayer ce matin de comprendre, il faut tout le temps revenir à cela, comment dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, le foyer est quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est ça une source. Les robinets, ça se remplace. Et les canalisations aussi. Et ça, ça se remplace très bien. Tandis qu'une source ne se remplace pas. Elle peut se tarir, mais elle ne se remplace pas. Et il faut en chercher une autre alors. Et vous savez bien, quand une source est tarie, on cherche à en creuser une plus profonde pour retrouver une autre nappe d'eau ou une autre nappe de pétrole. Donc, on cherche. Et c'est important de comprendre cela. C'est qu'avant que ça se tarie, il faut creuser. Et il faut creuser toujours plus loin. Et c'est ça qui est merveilleux, que dans notre cœur humain, on sait que c'est infini. On sait que c'est infini, on sait très bien que ce n'est pas du tout une seule source. Il y a un jaillissement premier, puis il y a d'autres jaillissements possibles. Vous voyez, on ne croit pas assez dans la profondeur du cœur de l'homme. C'est une des choses qui me frappe. Dieu nous fait bien plus confiance que nous faisons confiance aux hommes. Bien plus. Dieu nous fait confiance, c'est pas étonnant, parce qu'il nous a créés, il sait ce qu'il y a en nous. Alors il fait confiance. Il y a en nous une capacité infinie d'amour. Pas une seule capacité. Et c'est là, je crois, toujours le danger. C'est que quand on ne creuse pas tout le temps, quand on ne recherche pas tout le temps à aller plus loin, on se fatigue. Et alors on a l'impression que la source est tarie. Et on se dit, ça y est, c'est fini. Alors il faut aller autre part. Alors que si on avait été peut-être, j'allais dire, plus intelligent dans l'amour, parce qu'il faut être très intelligent pour aimer, mais d'une intelligence qui est une intelligence du cœur, hein, une intelligence que nous avons tous, c'est bien évident. Il ne s'agit pas d'information, il ne s'agit pas de culture, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est cette intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, elle ne doit jamais tarir, et elle doit permettre à l'amour d'aller toujours plus loin. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble, si vous voulez. D'abord, je préviens, parce que je crois que c'est important, n'hésitez jamais, étant donné que c'est difficile après les conférences de vous demander si vous avez des questions, notez-les, vous me les mettrez sur le bureau ici, parce que je désire que ça corresponde à ce que vous attendez. Je ne vous connais pas, ben je connais quelques ménages, mais en majorité je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas non plus. Et donc il faut qu'il puisse y avoir une longueur d'onde qui s'établit et qui puisse faire qu'on puisse vraiment correspondre à tous vos problèmes, à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas, si vous désirez qu'il y ait tel ou tel sujet, je ne dis pas nécessairement je répondrai à tout, c'est impossible, il faudrait rester 8 jours alors, n'est-ce pas, mais n'hésitez pas de le dire, c'est déjà beaucoup de le dire, et puis n'hésitez pas de venir me voir entre deux, je serai à votre disposition. Je suis au 200, donc c'est pas bien loin, hein. C'est pas au 400, mais c'est au 200, donc c'est juste l'étage au-dessus sur la droite. Alors, n'hésitez pas de venir, même si je suis pris, on prendra rendez-vous pour qu'on puisse essayer de se voir dans la mesure où c'est nécessaire, parce que je crois que c'est un des buts, ça. Donc, pendant les conférences, s'il y a tel ou tel mot, telle ou telle expression que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas, notez-le et puis demandez-le tout simplement sur un papier, qu'est-ce que vous entendez par ça ? C'est simple, je crois que c'est nécessaire ça, pour qu'il puisse y avoir encore une fois une compréhension mutuelle toujours plus profonde. Que, vous voyez, les conférences ne passent pas au-dessus de votre tête en disant c'est très beau mais j'ai rien compris. Ça, c'est quelquefois ce qui arrive, c'est pas ? Au point de vue philosophique, on peut employer des mots barbares et puis dire c'est très très beau, c'est un feu d'artifice étonnant, mais j'ai rien compris du tout. Ah, c'est pas le but, hein. Le but, c'est au contraire d'essayer qu'il y ait une communication. Je voudrais, pour vous, être un peu source, voyez, un peu source qui vous aide à aimer plus, qui vous aide à enlever des murailles, des murs qui se construisent automatiquement. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas croire que quand on se met à vouloir aimer, que c'est facile. C'est la chose la plus difficile au monde qui soit, d'aimer vraiment. D'aimer en profondeur, c'est la chose la plus difficile. Et c'est en même temps la chose la plus facile. C'est quand même curieux, mais c'est comme ça. L'amour est la chose la plus normale de notre cœur. Notre cœur est assoiffé d'amour. Si notre cœur n'était plus assoiffé d'amour, on ne serait plus un cœur d'homme ou de femme. Notre cœur est assoiffé d'amour. Tous, on ne le dit pas, hein, on n'ose pas le dire. Mais on est tous assoiffés d'amour. On désire tous être aimés et aimés. C'est ce qu'il y a de plus normal dans la vie de l'homme. On désire être aimé. Et on désire aimer. Et quand on est plus aimé et qu'on n'aime plus, c'est terrible. Vous voyez, c'est l'image de la Samaritaine. Et Jésus a voulu prendre cet exemple exprès pour que nous comprenions cette situation limite de la femme. Elle n'en peut plus. Elle n'est plus aimée. On ne peut pas passer une vie sans être aimé. Et on ne peut pas passer une vie sans aimer. Mais pour aimer, il faut que quelqu'un reçoive notre amour. Et c'est pas si commode comme ça, c'est pas si commode que ça de recevoir l'amour de l'autre. C'est-à-dire accepter d'être aimé. Et quelquefois, on a peur d'être aimé, parce qu'on sait que c'est très exigeant. C'est la même chose au point de vue divin. Pourquoi la plupart du temps, nous ne comprenons pas du tout ce que c'est que la prière, c'est parce qu'au fond, on n'a pas découvert que Dieu nous aimait. On n'a pas découvert que Dieu nous demandait de recevoir son amour. Alors évidemment, la difficulté, c'est que ça ne se voit pas. L'amour humain, ça demande de se voir et ça demande de s'expérimenter. N'est-ce pas ? Vous n'allez pas dire à quelqu'un en pleine crise d'amour, « Crois que je t'aime, tu ne sens rien, c'est pas la peine que je te le manifeste, je suis incapable de te le manifester pour le moment, mais crois en mon amour. » Dieu seul peut dire ça. Non, pas à la place de Dieu. Dieu seul peut exiger de nous, et c'est la grande épreuve. Hein. Saint Jean nous dit hein, que la foi, c'est croire en l'amour. C'est pas croire en la parole, ça c'est assez facile. Mais croire en l'amour, c'est beaucoup plus difficile, et c'est beaucoup plus éprouvant. Parce que d'une certaine manière, l'amour demande d'être éprouvé. L'amour demande d'être senti. L'amour demande d'être vécu. Et Dieu seul peut nous demander ça. Alors il nous a donné un grand signe. C'est le mystère de la croix du Christ. Mais c'est un signe qui n'est pas commode à comprendre. Puisque la croix, on sait très bien, scandale et folie. Hein. Selon notre nature humaine, selon notre sensibilité. Et alors, très facilement, en face de la croix, c'est scandale et folie. La croix est contemporaine de l'amour. Quand il s'agit de l'amour chrétien. Et je crois qu'elle est présente dans tout amour humain. C'est pour ça que c'est difficile d'aimer. Parce qu'on a de la peine à comprendre que quand on aime, nécessairement, il y aura des luttes, il y aura des difficultés, il y aura la croix. Il y aura une croix particulière à chaque amour. Et cette croix particulière à chaque amour, c'est pour un amour plus profond. C'est pour découvrir quelque chose qui va plus loin. La croix n'est jamais un mur qui arrête l'amour. La croix, quand elle était vécue vraiment par un chrétien, la croix est une exigence d'aller plus loin. C'est une exigence de creuser pour aller plus loin et de découvrir une source plus profonde. C'est qu'on n'a pas été assez loin. Et parce qu'on n'a pas été assez loin, alors il y a quelque chose qui arrête. Donc, c'est pour vous rappeler, n'hésitez pas, s'il y a des expressions de « je peux dire » et qui sont quelque chose que vous ne comprenez pas, de me le dire. Ou si, parmi les choses que je peux dire, je parle avec vous avec beaucoup de liberté, vous voyez. J'aime mieux ça, parce que c'est je crois, le seul moyen qu'on puisse vraiment communiquer. Si, parmi les choses que je peux dire, certaines, je passe très rapidement, et que vous aimeriez qu'on insiste davantage, n'hésitez pas de me le dire. Oui, ceci pour que nous soyons vraiment en harmonie profonde. Alors je vais tout de suite avec vous creuser un peu ce grand mystère, je dis bien ce grand mystère du foyer, tel que Dieu l'a voulu, dans la lumière actuelle de l'enseignement du pape. Le pape, c'est le pape du foyer, vous savez bien. Il a eu le courage de faire un synode sur la famille, et c'était très courageux de sa part, hein, et de faire tout de suite ce synode sur la famille, on peut dire. Et puis avant d'être pape, il s'intéressait beaucoup à ce que représentait le point de vue du foyer. Il s'intéressait beaucoup parce que toute sa philosophie était orientée vers ça. Toute sa philosophie, c'est une philosophie de l'amour. Et parce que c'est une philosophie de l'amour, on peut dire que notre pape actuel, c'est vraiment le pape du foyer. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un qui est particulièrement proche du cœur de l'homme et de la femme. Il a un amour très particulier sur le foyer parce qu'il sait que les grandes attaques du démon aujourd'hui, et nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est le sacerdoce et le foyer. Et quand je prends le sacerdoce, je prends aussi le mystère de Marie au pied de la croix, la maternité spirituelle et le foyer. Autrement dit, les grandes attaques, c'est par rapport à la fécondité. Je crois, et plus je regarde certains passages de l'Apocalypse, plus je crois qu'on peut le dire. La fécondité, elle provient d'une source, jaillissante. Et c'est ça le propre de la fécondité. Et le démon ne peut pas supporter la fécondité. C'est vieux, mais aujourd'hui ça éclate. Et aujourd'hui ça se dit ouvertement. Avant ça ne se disait pas ouvertement. Alors il y a quelques grands lieux dans l'écriture où nous devons essayer de découvrir ce qu'on représente dans la perspective de Dieu, le point de vue du foyer, le point de vue du couple. D'abord, le point de départ. Il faut tout le temps y revenir puisque c'est le point de départ. le regard du Créateur. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé les autres fois, mais comme il y en a beaucoup de nouveaux, c'est quand même toujours important de revenir là-dessus. C'est évident, et le Saint-Père actuel a insisté beaucoup sur ce regard. Un foyer qui vit vraiment comme foyer a le droit de parler à tous les foyers. Tandis qu'un prêtre comme prêtre ne peut pas parler à tous les hommes. Il peut parler à tous les hommes, mais comme prêtre, il ne parle qu'aux baptisés. Il parle de la révélation. Comme homme, il parle à tous les hommes. Comme philosophe, il parle à tous les hommes. Ce que Vatican II demande, l'ouverture au monde. Mais en tant que prêtre, alors vous allez dire c'est la même chose pour le sacrement de mariage. Oui, c'est la même chose, mais le mariage comme tel a un fondement naturel. Et il ne faut jamais l'oublier, ça. Il ne faut jamais l'oublier. Il a un fondement naturel. Et donc il y a quelque chose qui regarde toute l'humanité. Et quand le foyer est secoué, c'est l'humanité elle-même qui est secouée. Tandis que je ne peux pas dire la même chose pour le sacerdoce. On ne peut pas dire que quand le sacerdoce est secoué, c'est l'humanité qui est secouée. Non, non, ce n'est pas la même chose. Quand la vie religieuse est secouée, ce n'est pas l'humanité qui est secouée. C'est dans l'Église quelque chose de très important. Mais c'est dans l'Église. Le foyer a cette situation particulière. C'est qu'il est à la fois quelque chose qui est antérieur à l'Église et quelque chose qui sera au cœur de l'Église. Puisqu'il y aura le sacrement de mariage. Et le sacrement de mariage sera au cœur de l'Église. Ceci fait comprendre comment le foyer va être de fait par rapport aux luttes, par rapport aux conséquences du péché. Curieux. Le lieu des plus grandes luttes. C'est vrai. Le lieu des plus grandes luttes. C'est là où de fait les attaques auront un caractère particulièrement fort, particulièrement intense. C'est là où de fait les luttes prendront comme un paroxysme, arracher du cœur de l'homme, du cœur de la femme, sa capacité d'aimer. Sa capacité naturelle d'aimer. Et là où il devrait y avoir une harmonie et une unité, mettre une division. Mettre quelquefois la haine. L'amour peut passer à la haine facilement. Donc nous voyons comment le péché vient ébranler, secouer ce que Dieu a voulu au point de départ. Comment Dieu reprend tout initialement à travers le foyer. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comment Dieu sanctifie le cœur du Père. J'aime beaucoup de regarder cette manière dont Dieu va reprendre la famille avec Abraham et Sarah. Ce n'est pas un jeune foyer. Donc les foyers plus âgés ont toujours quelque chose à dire. Puisque ce n'est pas un jeune foyer, hein. Abraham et Sarah. Abraham a 75 ans et Sarah, elle est relative à lui. Donc, elle le suit. C'est évident que Sarah n'est pas toute jeune. On voit très bien, elle a un très sale caractère. La vieillesse de Sarah, c'est sûr. Abraham n'a pas un caractère non plus très commode, c'est sûr. Mais on voit que Dieu reprend tout par ce vieux foyer. C'est curieux que Dieu reprenne tout par ce vieux foyer. Très curieux, je sais bien qu'on est dans l'Ancien Testament. Alors c'est Dieu reprend tout par le vieux foyer d'Abraham. Ça m'émeut beaucoup ça, que Dieu reprenne tout par ce vieil Abraham en lui demandant d'être transplanté. Heureusement que Dieu reprend immédiatement après tout par le jeune foyer d'Isaac. Ça, là il y a un jeune foyer, mais un jeune foyer très particulier, hein. Un jeune foyer d'un type très spécial, où ce n'est pas Isaac qui a choisi Rebecca, mais c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour choisir, et choisir quelqu'un du pays pour être plus sûr. Ça prouve que c'était un moment de très grande crise. Parce qu'il fallait à tout prix qu'il y ait quelqu'un qui soit pleinement, pleinement dans les bonnes idées. Et donc il fallait quelqu'un du pays, quelqu'un du pays. Et non pas en terre étrangère. On voit très bien cela. Alors le choix du serviteur d'Abraham. Puis Jacob, alors là c'est un choix personnel. C'est quand même curieux. Hein, il a fallu du temps avant le choix personnel. Je crois que c'est très important de regarder ces trois foyers, ces trois reprises à l'égard du Père, du cœur du Père. Et Dieu reprend avec le cœur de Jacob, Rachel. Le seul coup de foudre hein, que l'Écriture montre, c'est Jacob à l'égard de Rachel. Et ça, c'est très beau, c'est merveilleux. On voit que Jacob est complètement transformé dès qu'il a regardé Rachel. Ça n'a pas duré très longtemps, si vous voulez, parce qu'entre deux, il y a eu des petites histoires un petit peu difficiles. Mais c'était pas commode du tout. C'est vrai, les coups de foudre, ça n'arrange rien. N'est-ce pas ? Ça n'arrange rien. Ça demande de s'arranger progressivement. Mais c'est quand même très étonnant. C'est pas Abraham qui a eu un coup de foudre divin pour Sarah. Non, non. On ne sait pas comment ça s'est rencontré. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu prend le vieil Abraham. Dieu prend le jeune Isaac. Et Dieu prend Jacob dans sa pleine force. Le cœur du père qui progressivement prend le cœur de l'époux. C'est plus facile de sanctifier le cœur du père que le cœur de l'époux. Je crois que c'est ce que nous devons dire quand on essaie de comprendre un tout petit peu la manière de Dieu conduit. C'est plus facile de sanctifier le cœur du père que le cœur de l'époux. Je crois que c'est vrai ça. Je crois que c'est vrai, que c'est plus facile de sanctifier le cœur du Père. C'est ce que nous voyons dans l'Écriture. Et ça, c'est la pédagogie de Dieu. C'est la grande pédagogie de Dieu. L'Ancien Testament, c'est la grande pédagogie de Dieu. C'est Dieu qui fait sortir quelqu'un de la faute, du péché, pour l'arriver petit à petit à lui donner quelque chose de profond. Alors c'est pour ça que c'est toujours important de regarder l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament a toujours pour nous beaucoup de choses à dire dans l'ordre pédagogique. C'est qu'on voit progressivement comment la foi, comment l'espérance prend possession du cœur de l'homme. Puis alors nous voyons cette chose extraordinaire, la Sainte Famille. Alors là, tout est repris par la femme, la Nouvelle Alliance. C'est curieux que la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament et la manière dont Dieu agit dans la Nouvelle Alliance, c'est très très différent. On allait presque dire que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de pédagogie. Dites pas ça trop, mais c'est vrai. La pédagogie, c'est l'Ancien Testament. On est toujours de l'Ancien Testament. Hein? C'est saint Augustin qui disait ça. Il y a très peu de choses en nous qui est du Nouveau Testament. Pauvre saint Augustin, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Il dirait qu'il y a encore énormément, chacun de nous, de l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'homme qui passe du païen au chrétien. L'homme qui a besoin d'être éduqué. Et la femme qui a besoin d'être éduquée, qui doit être éduquée. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Et la Nouvelle Alliance, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est Marie. Et c'est vrai qu'avec Marie, c'est très abrupt. C'est très abrupt et c'est en même temps d'une simplicité extraordinaire. C'est d'une simplicité extraordinaire. Et c'est par Marie que tout est repris. Et c'est la Sainte Famille. Vous savez bien, la Sainte Famille, c'est à la fois très proche et en même temps très loin. C'est assez extraordinaire la Sainte Famille à ce point de vue-là. C'est quelque chose de très proche et de très loin. C'est très loin parce que, faut se dire, la Sainte Famille, donnez-nous comme modèle la Sainte Famille, on n'en est pas là. C'est bien évident qu'on n'en est pas là. Personne d'entre vous ne peut dire que la Sainte Famille, c'est vraiment le modèle dont vous vivez tous les jours. Non, 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 non. C'est sûr, c'est très loin. Et en même temps, c'est très proche. C'est très proche. C'est très vrai quand je regarde Marie et Joseph. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'Abraham et Sarah. Pas tout à fait du même calibre. C'est très différent. D'une certaine manière, on se retrouve mieux dans Sarah, on se retrouve mieux dans Abraham. On se retrouve plus facilement, parce que là, il y a une proximité du vieil homme. Tandis que quand je regarde Marie, c'est la limpidité absolue. Elle est immaculée. Quand je regarde Joseph, il a bon goût puisqu'il a choisi Marie. Et je n'ai pas le même goût. J'arrive pas à avoir ce goût extraordinaire de Joseph. Tous les hommes devraient avoir le goût de Joseph. quand ils choisissent leur épouse. C'est merveilleux, du reste. Et c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on découvre le cœur de l'homme. C'est dans le choix de l'époux à l'égard de l'épouse. Et le choix de l'époux à l'égard de l'épouse, c'est quelque chose de merveilleux. Ça révèle à l'homme ce qu'il est. Et ça révèle à la femme ce qu'elle est. C'est quelque chose de très, très profond, ça. Quelque chose de très, très fondamental. Le choix d'Abraham à l'égard de Sarah, je ne sais pas, mais le choix de Jacob à l'égard de Rachel, c'est merveilleux. Et le choix de Joseph à l'égard de Marie, c'est encore plus merveilleux. Il y a la Sainte Famille. Et Jésus, dans son enseignement, nous dit qu'avec le mariage, on reprend tout à l'état primitif. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et le Saint-Père nous le dit. Que de fait, Jésus veut tout reprendre à l'état primitif. Ce qui nous fait comprendre comment le sacrement de mariage est un sacrement qui réclame quelque chose de très exigeant. Et Jésus le sait. Puisque c'est tout reprendre avant le péché, l'état primitif. À cause du péché, à cause de la dureté du cœur, Moïse a accepté le divorce dans certains cas. À cause de la dureté du cœur, Moïse a accepté le divorce dans certains cas. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes qui revient tout le temps. Cette question du divorce. Parce que c'est vrai, ça se multiplie d'une façon invraisemblable. Dès qu'il y a une difficulté au bout d'un certain nombre d'années, alors tout de suite, on dit le divorce. Le divorce n'est pas une solution. Dans l'Ancien Testament, c'était une solution. Et Jésus a dit non. Il y a une exigence nouvelle. Quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et c'est vrai que ce n'est pas une solution. C'est quelque chose de terrible parce que ça met les deux dans des situations impossibles. Et l'Église le sait avec tout son regard maternel, tout son regard de miséricorde et d'amour, et tout le caractère maternel de l'Église. L'Église sait que ça va contre la volonté du Christ. Ça va contre le point de vue du sacrement. C'est très important de saisir ça, parce que ça fait comprendre que la vie chrétienne, à certains moments, elle doit être héroïque. C'est peut-être ce qu'on oublie de trop. Vous voyez, on a trop embourgeoisé la vie chrétienne. Ça, c'est vrai. On l'a trop moralisée. On l'a trop pris du côté juridique et moralisé. Et je crois que l'heure est venue aujourd'hui, ce que Jésus dit à la Samaritaine. L'heure est venue aujourd'hui, et ça j'en suis sûr, l'heure est venue aujourd'hui que nous devons tout regarder dans une nouvelle lumière du cœur du Christ, du cœur de Marie. C'est cela dont on a besoin, parce que nous sommes dans un moment où il nous est demandé une attitude assez héroïque pour être chrétien. Pour être chrétien, c'est pas d'élitisme, hein, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a des pauvres types héroïques, j'en connais, qui sont des pauvres types héroïques. Et puis il y a des types très bien qui sont pas héroïques du tout. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est une classification qui n'est pas du tout celle que nous avons habituellement. Il y a des pauvres types héroïques. Et le chrétien doit accepter qu'il est un pauvre type. On ne vous demande pas du tout d'être des héros à me montrer, mais on vous demande d'être héroïque dans l'amour. C'est très différent. Héroïque dans l'amour du cœur de Jésus, héroïque dans l'amour du cœur de Marie. C'est-à-dire un héroïsme qui va beaucoup plus loin qu'un héroïsme humain. C'est l'héroïsme du cœur. C'est l'héroïsme de l'amour. Revenir auprès du cœur de Jésus, auprès du cœur de Marie. Vous voyez, dans un regard, aujourd'hui, nous avons une vision aérienne. Alors, dans un regard de vision aérienne, je crois que nous pouvons dire cela, que dès que nous nous plaçons en face de ce que représente le foyer, ce que représente la famille, nous voyons tout de suite le point de départ, le regard du Créateur. Le péché. Tout se ramène à ça. Hein. Tout se ramène. Ce regard du Créateur, le péché. La reprise pédagogique de Dieu. Il y a une reprise pédagogique. L'Ancien Testament nous donne cette reprise pédagogique. Et qui dit pédagogique dit quelque chose de lent. C'est toujours lent, la pédagogie. Ça ne peut pas aller trop vite. faut pas aller trop vite, on sait très bien. Quand on doit éduquer un enfant, faut pas brûler les étapes. Et d'une certaine manière, du côté de l'amour, on est toujours des enfants. Toujours. Toujours. Personne d'entre nous n'oserait dire que dans l'ordre de l'amour, il n'a plus rien à apprendre. Ce serait triste. Si on a encore quelque chose à apprendre, ça prouve qu'on est un enfant. Être un enfant, c'est celui qui accepte d'avoir quelque chose à apprendre. On n'est plus un enfant quand on n'a plus rien à apprendre. Tandis que quand on se met auprès de l'Esprit Saint, auprès du cœur de Jésus, auprès du cœur de Marie, et qu'on reconnaît qu'on a encore beaucoup à apprendre, ça prouve qu'on est un enfant. Donc, et si on est un enfant, on a besoin d'une pédagogie intelligente, mais d'une pédagogie. Dans l'ordre de l'amour, on a toujours à apprendre, et on doit tout le temps revenir. Alors il y a cette grande pédagogie divine, et ça, il faudrait découvrir progressivement ce qu'est cette pédagogie divine. Cette pédagogie divine n'est pas une pédagogie d'ordre psychologique. C'est ça qui est très très difficile aujourd'hui. C'est qu'on croit que toutes les solutions seront données par le point de vue psychologique. Non, non. Dieu n'aurait pas eu besoin de nous donner la révélation si tout nous avait été donné par la pédagogie. La révélation, c'est la révélation de l'amour. Et on a besoin de la révélation à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour qu'on a besoin de la révélation. Et uniquement à cause de l'amour. Pas pour d'autres choses, mais pour découvrir ce que c'est que l'amour. Alors là, il y a une pédagogie divine. Et l'Ancien Testament, vous voyez, la pédagogie, ce serait très très beau à regarder, la pédagogie de l'Ancien Testament à l'égard de la famille. Il y a des moments très très beaux, il y a des moments très grands, extraordinaires, où on voit très bien comment Dieu éduque dans l'ordre de l'amour. Puis alors, au-delà de la pédagogie, le mystère de Marie, le mystère de Joseph, le mystère de la Sainte Famille. Oui, je prends successivement dans un regard, parce que d'une certaine manière, la Sainte Famille nous donne cette lumière plénière, totale, qui permet de comprendre la signification de la pédagogie. Et comment la Sainte Famille va être la grande lumière qui va exiger le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est pour que nous reprenions tout dans la lumière du Christ et que nous comprenions que le péché, les conséquences du péché qui blessent la famille, qui détruisent la famille, Dieu s'en sert pour aller plus loin. Ce n'est pas un retour au paradis terrestre, ce n'est pas un retour à quelque chose de premier, le sacrement de mariage. C'est nous permettre de nous servir de toutes les blessures conséquences du péché, de toutes les brisures dans l'ordre de l'amour, de comprendre que tout cela peut être un moyen divin pour aller plus loin. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Il faut de temps en temps pouvoir le dire à l'égard du foyer. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Vous voyez, les blessures dans l'ordre de l'amour, tout ce qui a brisé, tout ce qui pourrait être psychologiquement occasion de divorce. Que la psychologie vous conduit au divorce. Ça, tout le temps. Tout ce qui pourrait être psychologiquement occasion de divorce, dans le sacrement de mariage, devient un moyen pour aller plus loin. C'est ça qui est extraordinaire. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloignées les voies de Dieu que les nôtres. C'est ça que nous avons beaucoup de peine à comprendre, qu'il faut essayer de saisir. Parce que c'est très important de saisir cela. C'est de comprendre que, de fait, dans l'Évangile, le regard du Christ sur le divorce accepté par Moïse est rejeté. Pour reprendre quelque chose de plus radical et de plus profond. J'aime beaucoup ce lieu, parce qu'il est très important au point de vue du sacrement. Il est très important au point de vue du regard du Christ sur ce que c'est que le foyer. Autrement dit, hein, essayons de saisir, autrement dit, par le sacrement, Jésus lui-même devient témoin de l'amour humain. Par le sacrement, je dis bien témoin, pas spectateur, hein, le prêtre n'est pas spectateur. Parce qu'alors, il n'y aurait pas besoin de prêtre. Hein. Vous savez bien qu'à un moment donné, on aurait voulu dire qu'il n'y avait pas besoin de prêtre pour le sacrement de mariage. Et ça existait un moment comme ça. Parce que c'est vrai, c'est les époux qui se marient en face du Christ. Il faut un témoin, le prêtre. Et le prêtre est témoin. Il est la place du Christ. Pour nous faire comprendre que le Christ est témoin. Témoin, ça veut dire qu'il est celui qui agit. Il n'est pas du tout spectateur, il est celui qui agit. Il est celui qui prend cet amour humain et le met dans son cœur pour le transformer en amour divin. Et le sacrement, à ce moment-là, prend toute cette dimension dans l'ordre de l'amour. C'est le sacrement d'un amour humain qui est pris en charge par Jésus, puisque c'est un sacrement. C'est une présence de Jésus. C'est Jésus présent au milieu de l'amour humain. Et c'est Jésus qui veut être présent au milieu de l'amour humain. C'est Jésus qui veut lui-même montrer comment son amour est victorieux de toutes les conséquences du péché. À l'intérieur même du foyer. C'est Jésus qui veut montrer la victoire de son amour à l'intérieur même du foyer. Et qui veut faire que le foyer soit non seulement source d'amour au point de vue humain, mais soit source pour l'Église d'un amour divin, d'un amour qui se refait tout le temps et qui se reprend tout le temps et qui demande de se reprendre tout le temps. Le sacrement ne supprime pas les luttes. Le sacrement lie à la croix du Christ. Et alors, puisque le sacrement lie à la croix du Christ, on comprend très bien comment le sacrement va être là pour donner constamment toute sa dimension à l'amour humain. Vous voyez, voilà les quelques grands thèmes, je crois, nécessaires de revoir ensemble ici. Je prends ces aspects-là parce qu'ils sont inscrits dans l'Écriture, et donc ils sont tout le temps à reprendre. Alors, si vous voulez, et s'il y en a d'autres, vous me le direz, mais au fond, c'est ces quelques grands aspects que nous traiterons ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord donner cette vision aérienne qui donne un petit peu la synthèse pour mieux comprendre les quelques grands aspects par où le foyer doit être source d'amour. Alors, je prends le premier, le regard du Créateur, les premiers chapitres de la Genèse, parce que ça, c'est important et c'est capital. Alors, vous savez bien, ceux qui connaissent un peu la Genèse savent bien, ces deux grands aspects, ces deux grandes lumières qu'il ne faut jamais oublier et jamais séparer. Les deux récits sur l'homme et la femme. Le premier récit où, dans sa sagesse, Dieu regarde dans un même regard l'homme et la femme. Il ne faut jamais oublier que Dieu regarde le foyer dans un seul regard. Il y a deux personnes et il n'y a qu'un seul regard de Dieu. C'est assez extraordinaire ça. Faisons l'homme à notre image. Faisons-le à notre ressemblance. C'est la volonté même de Dieu et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Il y a un seul regard de Dieu. Et ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. Vous voyez que l'unité est avant la dualité. Ça. Expliquez ça comme vous le voulez, mais il y a quelque chose qui est très important pour nous. Ce qui montre combien Dieu veut l'unité dans le foyer. Et comment, quand on brise, eh bien, on va contre ce premier regard de Dieu. C'est assez extraordinaire, hein, ça. Ça, au point de vue. Vous voyez, au point de vue philosophique, on ne ferait pas ça du tout. Hein. Au point de vue humain, je ne ferais pas ça du tout. Au point de vue humain, je dirais, mais non, il y a l'homme et la femme, regardez-les, il faut d'abord qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des personnes, et puis allons dire, mais comment voulez-vous vous entendre, vous n'êtes même pas une personnalité, vous n'arrivez pas, vous vous cherchez mutuellement, et vous n'arrivez pas à être vous-même. Dieu a regardé l'homme et la femme dans un même regard. c'est dit. Homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Ce regard unique de Dieu sur l'homme et la femme, ce regard unique de Dieu sur l'homme et la femme dans sa sagesse, pour nous faire comprendre que l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, elle est dans les deux, liées ensemble, dans une unité profonde, dans une unité voulue par Dieu. Dieu les bénit. C'est la bénédiction de Dieu qui regarde les deux. Ce n'est pas une bénédiction sur Adam d'abord, une bénédiction sur Ève après. Non, la même bénédiction. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds. Tout de suite. Tout de suite la fécondité. Immédiatement. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Il faut voir ce premier regard. Je le pose simplement. On essaiera progressivement de le comprendre. Mais c'est important. Tout le temps de revenir à ce premier regard. Actuellement, Dieu a sur vous, puisque le regard du Créateur est toujours actuel. Hein. Faut pas l'oublier, faut pas dire, oh, ça c'est vieux, c'est dans l'Ancien Testament. Non, non, c'est le regard du Créateur. Le regard du Créateur, selon une bonne théologie, est un regard éternel. L'acte créateur de Dieu est éternel. Donc il est actuel. Puisque l'éternité est présente à chaque moment du temps. L'éternité n'est pas dans le temps, donc présente à chaque instant du temps. Et c'est ce qui fait l'importance de ce récit de la création, c'est qu'il est actuel. Ce n'est pas un vieux récit, en disant ce sont des vieilles traditions religieuses. Non, ça nous est donné comme le regard actuel de Dieu sur nous. Et ce regard actuel de Dieu, il est celui-là. Dieu regarde l'homme et la femme dans un même regard, en tant qu'ils sont le couple, en tant qu'ils sont source unique de vie. Source unique de vie, c'est ça qu'on doit voir. Soyez féconds. Donc source unique de vie, source d'amour, source de vie. Quand je regarde le second récit, qu'il faut toujours mettre en parallèle les deux. Parce qu'ils se complètent. Hein. Je n'ai pas le droit de regarder que le premier en me disant « Moi, je suis pour le premier. » Non, 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 regardons tout de suite. Hein. Je n'ai pas le droit de faire un partage. Si Dieu m'a donné deux récits sur la création de l'homme et la femme, c'est parce que justement ces deux récits sont complémentaires. Le second récit est totalement différent. Ce n'est plus la parole, c'est le geste. C'est le geste. Vous savez bien, toute l'écriture implique parole et geste. Toute vie commune implique parole et geste. On trahit aussi bien par la parole que par le geste. On s'unit plus par le geste que par la parole. La parole relève de la sagesse et de l'intelligence. Le geste relève du cœur et de l'amour. Le geste est lié au corps. La parole, elle est liée aussi au corps, puisque quand je parle, mes lèvres et ma bouche sont nécessairement au service de ma parole. Mais ma parole communique davantage, et en premier lieu, ce que je pense. Normalement, c'est ce que je pense qui est transmis par la parole. Tandis que par le geste, c'est le lien d'amour qui se réalise avec telle ou telle personne. Vous voyez, la parole peut être universalisée et elle s'universalise. Je peux diffuser une parole, surtout aujourd'hui, à une multitude de personnes. Je ne peux jamais diffuser le geste. C'est pour ça qu'il faut un bain de foule. Tandis qu'il n'y a pas un bain de parole, ça c'est absolument impossible. La parole n'a pas besoin, elle passe au-dessus de tout, elle passe par les ondes au-dessus de tout. Tandis que le geste a besoin d'un caractère particulier, d'un caractère personnel. Voyez. Et quand le geste devient anonyme, c'est la chose la plus terrible qui soit. C'est la chose la plus terrible qui soit. Le geste qui devient conventionnel, vous savez, c'est effrayant. Parce que ça abîme ce qui devrait être le plus individuel et le plus personnel. Oui, on revient très fort aujourd'hui, et le Saint-Père demande qu'il y ait une philosophie du corps. Et la philosophie du corps doit être la philosophie du geste. Retrouver comment notre corps manifeste l'amour et communique l'amour. Parce que le corps est ce qui permet une communication plus intense d'amour que la parole. On le sait très bien, ça. On sait très bien, ça. Et j'allais presque dire, la femme a plus besoin du geste que de la parole. L'homme a besoin de la parole. Il faut que la femme ne l'oublie pas. Et l'homme ne doit pas oublier que pour la femme a plus besoin de gestes que de paroles. Quand il y a des petites difficultés dans les foyers, hein, ça arrive quand même. Les foyers les plus aimants sont les foyers dans lesquels, forcément, il y a des luttes qui sont... Parce qu'on a une spontanéité très, très, très directe. Alors, il ne faut jamais oublier que quand il y a eu des petites difficultés, l'homme répare par le geste et la femme répare par la parole. N'oubliez pas ça. C'est très important. Parce que c'est biblique, ça. C'est quelque chose qui nous est montré dans l'Écriture. Et c'est Dieu qui nous éduque, là. C'est Dieu qui nous apprend. Le point de vue, c'est Dieu lui-même qui a fait des gestes pour nous apprendre à en faire, vous comprenez bien. Et c'est Dieu qui a parlé pour nous apprendre à parler, parce que c'est le grand éducateur, et c'est le premier éducateur, dans le sens très très fort. Alors on voit que le premier récit de la création, c'est la parole de Dieu, et il l'écrit en même temps, dans un même regard. La parole a toujours quelque chose d'un peu universel, c'est pour ça que la femme ne peut pas se suffire de parole, parce que l'universel, c'est fatigant pour le cœur, pour l'intelligence, très bien, mais pas pour le cœur. Le geste n'est jamais universel. Et quand il devient universel, il s'abîme, c'est plus un geste. Le corps est individuel. Notre corps individuel, qui est quelque chose de très particulier, et qui incarne l'esprit, qui incarne l'amour. C'est le corps qui incarne l'amour. Quand vous regardez le second récit, vous voyez que Dieu va façonner le corps de l'homme. Dieu façonne le corps de l'homme. Et il lui insuffle un souffle de vie. Et il devient un vivant. Alors quand on dit que dans l'Écriture, il n'y a pas la distinction de l'âme et du corps, regardez ce récit. Hein. C'est dit textuellement. Hein. Faut quand même... Alors je sais très bien, on dira, ce récit, il est postérieur. Bon, mais il est quand même un récit qui est donné dans l'Écriture et qui est sûrement très primitif. Toutes les traditions religieuses maintiennent la distinction de l'âme et du corps. Je souligne ça parce qu'aujourd'hui, il y a des petites tendances qui ne veulent plus ça. Alors c'est pour ça que je le souligne. On dit que c'est grec. Non, c'est pas grec du tout. C'est de l'Inde. Et c'est avant l'Inde, d'une certaine manière. C'est toutes les traditions religieuses. Dans toutes les traditions religieuses, il y a la distinction de l'âme et du corps. Et ici, cette tradition religieuse qui est prise dans l'Écriture, on voit que Dieu façonne le corps de l'homme. C'est curieux. Le corps a une antériorité sur l'âme, selon le symbolisme qui nous est montré ici. Hein. Comprenons bien. C'est un langage symbolique. Hein. Ce n'est pas du tout un langage scientifique et philosophique. C'est un langage symbolique qui doit nous faire comprendre quelque chose. Le corps de l'homme a été façonné avant que Dieu donne le souffle de l'âme. Faisons attention, mais comprenons bien. Et c'est le corps de l'homme. C'est intéressant point de vue pédagogique. La pédagogie doit regarder d'abord le corps. Et c'est vrai. Le tout petit enfant. C'est le corps. Et la mère façonne le corps du tout petit enfant, c'est bien évident. Elle en est le moule. Et après, elle doit lui apprendre. Et c'est par le corps qu'elle éduque. Première éducation, c'est l'éducation du corps. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est une éducation. Parce qu'on ne traite pas de la même manière un petit animal et le petit d'un homme. Et c'est le corps. Dieu a voulu façonner. On ne dit pas combien de temps Dieu l'a façonné. Alors vous pouvez mettre tout le temps que vous voulez. Hein. Mais Dieu l'a façonné. Il a façonné le corps de l'homme. Il n'a pas dit du tout que ça a été très très vite. Non, non, non. Il a façonné le corps de l'homme. Avec amour. Quand on fait quelque chose avec amour, ça dure. Hein. Et on voit très bien cela. Il insuffla un souffle de vie. l'âme, le souffle de vie. Et il fut un vivant. Alors, ce qui est très très curieux, selon ce second récit, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus primitif que le premier. Et vous savez, cette réflexion d'un père de l'Église, quand Dieu emploie des symbolismes plus grossiers, Dieu veut communiquer des secrets plus grands. J'aime beaucoup ce principe d'exégèse, qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui, hein, parce que l'exégèse d'aujourd'hui est beaucoup trop rationnelle. Elle n'est plus vitale. Alors elle oublie ces choses-là. Alors que l'Écriture, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose qui nous communique profondément la vie de Dieu et l'amour de Dieu. Et là, il ne faut jamais oublier que quand Dieu emploie un symbolisme plus grossier, il veut communiquer quelque chose de plus profond. Et le symbolisme de la seconde création est quand même quelque chose d'assez étonnant. Dieu façonne le corps de l'homme en premier lieu. Et Dieu semble, selon ce second récit, ne regarder que l'homme, comme s'il n'avait pas pensé à la femme. C'est diamétralement opposé, n'est-ce pas, au premier récit. Et c'est beau de voir ce langage tout à fait opposé. Le premier récit, il les voit en même temps. Le second récit, on a l'air qu'il n'y en a que pour l'homme. La première vue, c'est ça. Il façonne le corps de l'homme, et puis il crée un Éden, un jardin merveilleux pour l'homme, pour que l'homme soit vraiment gâté. Il fait quelque chose de merveilleux. Tout est pour lui. Dieu a oublié la femme. Il n'y pense pas. Du moins, selon le récit, il n'a pas l'air d'y penser. Pourquoi ça? C'est curieux, parce que Dieu aurait pu très bien faire les deux en même temps, quoi. Ça aurait été quelque chose de tout à fait compréhensible. Si on avait eu un conseil à donner au Saint-Esprit, on aurait dit, mais faites ça, comme ça. Non, il n'a pas fait ça. Il y a des raisons. Pourquoi? Je crois que la première expérience que Dieu veut donner dans l'homme, c'est de montrer à l'homme ses limites. Ça va très très fort. Et c'est très dans la philosophie moderne. C'est quand même une des choses qu'on sent très fort aujourd'hui. Que l'homme doit sentir ses limites pour pouvoir être capable de recevoir le don de Dieu. Que l'homme comprenne qui n'est pas suffisant par lui-même. Vous savez, l'autosuffisance de l'homme, c'est la chose la plus terrible qui soit. L'autosuffisance, quand une épouse épouse quelqu'un de très parfait et qui considère que cet homme est absolument parfait et qu'il peut tout faire lui-même, qu'il n'a absolument plus besoin d'avoir quelqu'un d'à côté, c'est la chose la plus terrible qui soit. Alors, Dieu sait très bien ça, qu'il y aura dans l'homme une tentation permanente d'autosuffisance. La tentation permanente d'autosuffisance, c'est le pharisaïsme sous toutes ses formes. Et alors Dieu sait très bien ça, il le sait quand même, et Dieu nous connaît, et il sait très bien qu'il y aura cette tentation permanente. Alors il y a une première expérience, hein, dans le langage symbolique de Dieu, il y a une première expérience fondamentale que Dieu veut donner et imposer à l'homme. Il lui impose, c'est l'expérience de sa limite. L'homme ne peut pas être heureux seul. Il croira toujours qu'il peut être heureux seul. Il aura toujours cette petite tentation permanente. Eh bien, l'homme ne peut pas être heureux seul. Il y a une brèche. Dieu a voulu marquer cela. Il l'a marqué par le temps, en laissant l'homme seul, en lui montrant des quantités de choses, des quantités de... Tous les animaux sont pour lui, il peut les nommer, tout ça est pour lui. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Une compagne pour son cœur. C'est là où on voit comment Dieu a creusé cette brèche et va compléter la brèche. Dieu va réaliser ce second geste, tout à fait différent du premier. C'est pas une répétition. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas une répétition. Dieu ne va pas faire deux fois le geste de celui qui façonne, le geste du potier. Il y a eu une fois le geste du potier. Et en second lieu, le geste du chirurgien. Il plonge l'homme dans la torpeur. Dieu ne demande pas conseil à l'homme. C'est quand même très curieux, ça. Hein? Il le plonge dans la torpeur. Il l'a laissé voir ses limites. Et en second lieu, Dieu le plonge dans une torpeur pour, à partir de l'homme. Et ça, tous les pères de l'Église ont été très émus de ça. À partir de l'homme, réaliser la femme. Réaliser la femme en continuité. Pour qu'il y ait comme une connaturalité très très profonde, très très radicale, qui est comme un prolongement au niveau de leur corps entre la femme, entre l'homme et la femme. Dieu façonne à partir de la côte de l'homme, symbolique, hein, c'est un geste symbolique, c'est bien évident. C'est un geste terriblement primitif, mais merveilleux de voir ça. Et les pères de l'Église ont dit, ce n'est pas à partir de la tête, ni à partir des pieds. Et quand les pères de l'Église disaient ça, ils réfléchissaient longuement là-dessus. Et saint Thomas a repris cela au terme des pères de l'Église. Aujourd'hui, évidemment, on ne le dit plus beaucoup. Mais c'est très joli de voir ça, à partir des pères de l'Église. Ce n'est pas de la tête, parce que le complément de la femme n'est pas premièrement du côté de l'intelligence, c'est premièrement du côté du cœur. C'est une sagesse d'amour, ça. Vous savez, quand la femme devient rivale de l'homme du côté de l'intelligence, ça ne plaît pas beaucoup à l'homme. Ordinairement, c'est comme ça. Je sais ce que j'ai à faire, je connais mon métier, laisse-moi tranquille, c'est ça. Du côté du cœur, ah, c'est tout à fait différent. Parce que du côté du cœur, il y a une absence. L'homme reste avec un creux, c'est curieux. L'homme a un creux plus grand dans le cœur que la femme. Hein. Réfléchissez là-dessus, vous verrez que c'est vrai. L'homme a un creux plus grand, Dieu l'a mis dans cette attente. Et ça demeure, puisque tout ceci est éternel. Donc tout ceci est actuel. Et donc il y a toujours ça. Dieu laisse cette espèce de brèche profonde. Alors ce n'est pas la tête, ce n'est pas les pieds. La femme ne doit pas être premièrement la servante. Hein. C'était les pieds, ce serait la servante. C'est le cœur. C'est le cœur pour faire comprendre que de fait, elle est celle qui est pour l'homme. Mais comprenons bien, quand je dis pour l'homme, on pourrait le traduire servante. Non. Elle est celle qui achève. Elle est celle qui est complément. Elle est celle en qui l'homme va pouvoir se dépasser en premier lieu. Le premier dépassement de l'homme se fait dans le cœur de la femme. Dans le cœur de l'épouse. Premier dépassement. C'est voulu par Dieu, cela. Et le second geste, ce geste du chirurgien, montre qu'à l'intérieur de l'amour, il y a une violence. Ça, c'est mystérieux. C'est une des choses les plus mystérieuses. À l'intérieur de l'amour, il y a une violence. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est vrai, même philosophiquement parlant. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour implique toujours une certaine violence. C'est pour ça que Jésus dit que c'est aux violents qu'appartient l'amour de Dieu, qu'appartient le royaume de Dieu. Et je crois que dans l'amour humain, dans ce qu'il a de plus connaturel et de plus profond, il est à la fois connaturel, puisque la femme provient de l'homme, dans ce symbolisme. Os de mes os, chair de ma chair, et donc il y a vraiment une connaturalité très radicale et très profonde, il y a en même temps une violence. On a mis l'homme dans la torpeur, s'il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas besoin de l'endormir. C'est bien évident, pas besoin d'endormir quelqu'un quand il n'y a pas de violence. Tandis que Dieu l'a plongé dans la torpeur, pour bien faire comprendre que, de fait, il y avait une certaine violence, pour que l'homme puisse accepter le dépassement. Supprimer cette autosuffisance. Il y a une certaine violence divine pour que l'homme puisse aimer celle que Dieu lui présente. C'est Dieu qui présente à l'homme la femme. Pour bien lui faire comprendre qu'elle vient de lui, qu'elle est son chef-d'œuvre, et qu'elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, si on est attentif au texte de l'Écriture, on doit reconnaître cela. Dieu ne s'est pas reposé après avoir créé l'homme. Dieu s'est reposé après avoir créé la femme. Il ne faut pas l'oublier. Or, un artiste ne se repose qu'après avoir créé son chef-d'œuvre. C'est pas impossible autrement. Tant qu'il n'a pas fait son chef-d'œuvre, il ne s'est pas reposé. C'est impossible autrement. Donc, dans la volonté de Dieu, je dis bien, vous voyez, je souligne ces choses-là parce que il y aurait là quelque chose qui serait très important à voir au point de vue théologique. Quand il s'agit du mystère de la création, l'art peut nous donner beaucoup plus l'intelligence de la création que la science. La théologie a été trop sensible à la science et pas assez à l'art. Et je crois que c'est très important, ça, quand il s'agit de la création. Les artistes comprennent beaucoup mieux le geste que les savants. Les savants ont de la peine à comprendre le geste. Ils comprennent la parole, les savants. Ils sont toujours du côté de la parole. Tandis que les artistes comprennent le geste. Un sculpteur, ça comprend magnifiquement le geste. Un peintre comprend magnifiquement aussi ce que c'est que le geste. L'artiste est là. Parce que c'est le second récit nous fait comprendre comment la création de l'homme et de la femme, c'est une création de l'artiste divin. C'est une création artistique. Dans le sens le plus grand, Dieu réalise son chef-d'œuvre, le point d'orgue. Dernier, et Dieu s'est reposé après. Il s'est reposé après. C'est pour montrer que son chef-d'œuvre, c'est vraiment la femme, la Benjamine, la dernière, complément, celle qui permet à l'homme d'aller jusqu'au bout de l'appel profond de son cœur. Elle est complément du cœur. L'achèvement dans l'ordre de la sensibilité et du cœur. Pas du côté de l'intelligence. La femme et l'homme sont intelligents l'un et l'autre. Dans deux modalités différentes d'intelligence. Et quelquefois, la femme est plus intelligente que l'homme. On le sait. L'homme n'aime pas beaucoup ça, mais ça fait rien. On est bien obligé de le dire. De temps en temps, la femme est plus intelligente. Elle comprend mieux, elle comprend plus vite. Elle a une intelligence plus intuitive, elle a une intelligence plus pénétrante d'une certaine manière. L'homme, il raisonne plus, il est plus logique, il se rattrape de ce côté-là, n'est-ce pas, en voyant toutes les imperfections des intuitions féminines. Alors il se rattrape du côté de sa logique, du côté de sa logique, ça c'est sûr, ça. Il a des intuitions comme ça, tous les matins, il a des intuitions comme ça. Et le soir, alors ça c'est encore mieux, n'est-ce pas? Mais, et alors l'homme, il raisonne. C'est vrai, il y a une certaine complémentarité du côté de l'intelligence. Je suis d'accord, il y a une complémentarité du côté de l'intelligence. Mais c'est pas là la vraie complémentarité, c'est du côté de l'amour. C'est du côté de l'amour. Dans la vision de Dieu, hein, dans la vision de Dieu, dans la vision primitive de Dieu, tout à fait première. Ils sont un et ils sont deux. Premier récit, l'unité. Et c'est comme ça qu'on doit la voir. Nous voyons la diversité et l'unité après. Et là, nous faisons erreur. Nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. C'est l'unité et dans l'unité, la diversité. Et la diversité qui n'est pas une diversité absolue, puisque c'est une complémentarité. Une complémentarité, ça veut dire justement le fait que c'est des relations réciproques. Il n'y a pas de complémentarité sans relation réciproque, sans un don réciproque. Oui, autrement, il y aurait pas. La complémentarité implique cela, et c'est une complémentarité dans l'ordre justement du cœur, de l'amour, parce que Dieu veut que l'homme et la femme soient l'image, la ressemblance de son mystère d'amour. L'homme et la femme sont chefs-d'œuvre de Dieu en tant que Dieu créateur crée. Par amour. Les anges sont chefs-d'œuvre de Dieu en tant que Dieu crée dans sa sagesse et sa lumière. Mais il y a quelque chose de plus profond, si j'ose dire, en Dieu. Ce n'est pas le mystère de sa lumière, c'est le mystère de son amour. Et c'est pour ça que c'est les deux derniers. Et il fallait qu'ils soient deux. Parce qu'en Dieu, il y a le mystère de la fécondité. Et pour que ce mystère de la fécondité puisse être manifesté à travers la créature, il fallait que le chef-d'œuvre de Dieu se réalise dans l'unité, la dualité, pour manifester ce grand mystère d'amour. Ce qui caractérise la création de l'homme et de la femme, à la différence de la création de l'homme, à la différence de la création de l'ange, c'est que l'ange est créé pour la lumière. Ce sont les fils de lumière. Ce sont les chefs-d'œuvre de Dieu du côté de la sagesse de Dieu, du côté de la lumière de Dieu. Tandis que l'homme et la femme sont créés pour nous faire comprendre la gratuité de l'amour, pour nous faire comprendre la fécondité de l'amour, pour nous faire comprendre comment l'amour ne peut se réaliser que quand on est deux. C'est dans la dualité, parce que c'est le don. On se donne à quelqu'un. Et l'amour est don. L'amour ne peut être que don. On peut chercher seul, mais on ne peut pas aimer seul. C'est impossible. Chercher seul, oui, ça c'est sûr. On peut chercher indéfiniment seul. Tandis que quand, aimer, non, parce que ça implique le don de tout nous-mêmes, implique quelqu'un qui est capable de nous recevoir. Quelqu'un qui doit être dans cette attitude de réceptivité à l'égard de ce don. Alors, on comprend comment Dieu, Créateur, a voulu réaliser une œuvre de lumière et une œuvre d'amour. Tout de suite, dès que nous nous plaçons dans cette perspective, nous voyons comment, dans la sagesse de Dieu, l'homme et la femme, qui sont un, impliquent cette dualité dans la complémentarité, dans l'unité. Pour ce mystère de gratuité de l'amour, pour ce mystère de fécondité de l'amour.